Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Mel Emmanuel.
C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Bonjour à tous. Grâce présidentielle accordée à plusieurs prisonniers issus des crises ivoiriennes. Parmi eux, Souleymane Camarate dit Soul to Soul, Afousiata Bombalamine et l'ex-général et commandant de la garde républicaine sous l'ère Laurent Gbagbo, Dogbo Blé Bruno. Opération de déguerpissement à Yopougon-Jesco. Le conseil municipal qui déplore la situation s'est réuni en urgence hier pour voler au secours de ces populations. Des actions de relocalisation temporaire pour les sinistrés et de réaffectation des élèves impactés sont en vue. Hors de nos frontières, l'accès à Internet a été rétabli en Guinée après 3 mois d'interruption. Une décision qui intervient 4 jours après la dissolution du gouvernement. Et notre journal prendra fin avec l'invité de la rédaction. Journaliste à l'agence France Presse, Sui Kaofi est interrogé par Junior Cardin sur la campagne de sensibilisation des jeunes dans l'usage des réseaux sociaux organisée récemment par le réseau des professionnels de la presse, de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Represi. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Ouvrons ce journal avec la réunion du Conseil national de sécurité tenue hier jeudi 22 février au palais présidentiel et présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été sanctionnée par plusieurs décisions, dont la principale est la grâce présidentielle en faveur de plusieurs personnalités civiles et militaires, dont Dogbo Blé Bruno et Kone Camarate Souleymane, dit Soul to Soul. On en sait plus avec Jean-Mélène Bitti.
Sur la libération, Alassane Ouattara dit vouloir s'inscrire dans la consolidation de la paix selon Fidel Sarasoro.
Le président de la République a informé de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires. Parmi ces personnes figurent Dogbo Blé Bruno, Niatoa Kate Paulin, Kate Kwame Jean-Baptiste et Kone Camarate Souleymane.
Lors de ce Conseil national de sécurité, le premier des Ivoiriens n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023, a fait savoir le secrétaire exécutif du CNS.
Au vu de ces excellents résultats obtenus, le président de la République félicite tous les acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023. Le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la CAN de l'hospitalité.
La Côte d'Ivoire est plus que jamais stable au plan sécuritaire grâce à la conjugaison des forces de défense et de sécurité, un engagement salué par le président Alassane Ouattara.
Le chef de l'État félicite les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements et leurs collaborateurs pour les efforts déployés dans le cadre de la sécurisation et de la stabilité de notre pays. Il les exhorte à poursuivre les actions en cours pour continuer d'améliorer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire.
Un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que le pays a connues sera érigé dans les plus brefs délais, une décision arrêtée par le président Alassane Ouattara.
Autre sujet, à l'école de police d'Abidjan s'est tenue hier jeudi la cérémonie de remise de parchemin aux 356 auditeurs de la 12e promotion des formations du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, à travers son université des droits de l'homme, Mata Touré.
Depuis la mise en place le 1er février 2018 de ce cadre de formation, fin 2023, ce sont 2441 auditeurs et auditrices qui ont été formés au cours des différentes sessions de formation, comme l'a rappelé Namizata Sangaré, présidente du CNDH.
Cette cérémonie marque la fin d'un parcours de formation de 356 auditeurs et auditrices qui ont été formés pour mieux comprendre la matière des droits de l'homme, et cela s'est tenu du 14 juillet au 27 décembre 2023.
Ce sont actuellement 163 auditeurs et auditrices qui suivent le cours en droit international des droits de l'homme pour la première session de l'année 2024. Une autre session relative aux droits de l'enfant va débuter le 12 mars prochain avec plus de 180 nouveaux élèves en présentiel et en ligne. Pour les nouveaux diplômés, ce sont de véritables perspectives qui s'ouvrent.
Cette formation nous a beaucoup appris parce qu'elle m'a permis d'avoir une vision un peu plus claire des droits qu'ont les femmes et de ce que peuvent faire les femmes et de ce que sont les femmes.
Et intégrer le CNDH pour moi, c'est de défendre les plus faibles et de trouver en tout cas le moyen de faire tout là où je suis, de faire la promotion des droits de l'homme.
Les populations de l'intérieur du pays et de l'international seront prises en compte pour ce programme avec une possibilité aux auditeurs de choisir de suivre les cours en présentiel ou en ligne à cette formation qui sera également suivie depuis d'autres pays.
Parlons de la loi portant statut général de la fonction publique qui a été présentée hier après-midi au cours d'une cérémonie. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, en a expliqué les grandes lignes devant la presse.
La création du Conseil de santé et sécurité au travail de la fonction publique, rattaché au cabinet du ministre chargé de la fonction publique. Elle prévoit la possibilité du détachement des fonctionnaires auprès des sociétés d'État, ce qui n'était pas possible. Je prévois également l'instauration d'un système d'évaluation des fonctionnaires dont les modalités seront définies par décret en remplacement de la notation. Il y a également la possibilité pour le fonctionnaire de bénéficier de promotions par l'acquisition de nouveaux diplômes au cours de sa carrière professionnelle, ce qui n'était pas le cas non plus avec l'ancienne loi. Nous avons la possibilité désormais de décorer les fonctionnaires qui sont à la retraite ou même décédés. Je pourrais également relever le renforcement des sanctions disciplinaires et l'instauration du principe d'autosaisine du ministre chargé de la fonction publique. Elle prévoit, entre autres, un profil de carrière clair pour tous les fonctionnaires. Une meilleure organisation du recrutement des agents contractuels à la fonction publique, un renforcement des droits du fonctionnaire par la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle.
Vous écoutiez la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, au micro de Mata Toré. Intéressons-nous à l'opération de dégarpissement entamée par le district d'Abidjan dans la commune de Yopougon, au quartier Jesco, le mardi 20 février dernier. Suite à cette opération, le conseil municipal de la commune s'est réuni en urgence hier jeudi à la mairie. Dans une déclaration lue par la directrice de la communication et porte-parole de la mairie de Yopougon, Cissé Massé a donné la position de la mairie et les actions que l'équipe municipale compte mener pour venir en aide aux populations sinistrées de Yopougon-Jesco. Nous l'écoutons.
Des engins ont procédé à la démolition de logements et de sites éducatifs dans le quartier Yopougon-Jesco. Des centaines de familles se retrouvent à la rue. Environ 1880 élèves sont privés de cours en pleine année scolaire et plusieurs petits entrepreneurs ont vu leur commerce détruit. La municipalité exprime sa pleine compassion avec les victimes de cette énième opération du district d'Abidjan contre ces populations démunies. La municipalité de Yopougon se désolidarise de cette action menée de façon unilatérale par le ministre gouverneur et tient à réaffirmer son profond attachement à la sécurité et au bien-être des habitants. La municipalité de Yopougon déplore ces méthodes et estime qu'il est impératif, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de se plier aux exigences d'un développement inclusif qui concilie construction d'une ville moderne et protection des plus démunis. Par conséquent, afin de sauver l'année scolaire des 1880 élèves touchés par ces démolitions, la municipalité de Yopougon est actuellement en concertation avec la Direction régionale de l'éducation nationale en vue de leur réaffectation dans d'autres établissements de la commune. Elle explore également les possibilités d'hébergement temporaire pour toutes les familles impactées.
Propos de Cissé Massé rapporté par Jean-Mélène Bitti. Tribune au cœur du patriote, au cœur du débat du patriote. Le premier invité pour l'année 2024 était le directeur général de Kipux Afrique, partenaire technique du gouvernement dans la digitalisation de l'administration du transport routier. Le bilan des actions déjà menées et les perspectives étaient au centre des échanges avec la presse ce jeudi au siège du journal Le Patriote. Compte rendu, Junior Cardin.
Le directeur général de Kipux Afrique, après la présentation de sa structure, a fait le point des activités. Ibrahim Akone.
Au total, nous avons de 2021 à 2023 généré 9 457 983 contraventions. Un taux de 85% lié à l'excès de vitesse, 14% au non-port de ceinture de sécurité, 35 000 cas de visite technique expirées. Depuis le 10 janvier, la vidéo-verbalisation est active sur les axes Abidjan-Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Bassam-Noé.
Au niveau du permis à points, les choses ont également évolué en moins d'un an d'opération.
Le nombre total de points retirés de mars à décembre 2023 est de 28 625 pour 8 607 permis concernés. Nous avons aujourd'hui 91 permis invalidés qui vont certainement faire l'objet de retrait.
En ce qui concerne les perspectives sur ce programme, le directeur général de Kipux Afrique estime que beaucoup reste à faire dans la capitalisation des acquis.
Travailler à ce que ces technologies-là puissent être déployées rapidement dans toutes ces localités, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, faire de Kipux Afrique un champion national sur ces questions de digitalisation de l'administration, surtout des transports, donc à partir du modèle ivoirien, aller à la conquête du continent africain.
Le directeur général de Kipux Afrique a tenu à rassurer la presse sur le fait que les véhicules administratifs sont assujettis à la verbalisation et que bientôt, le système d'assignation sera activé pour rattacher chaque véhicule à un conducteur.
Secteur de l'assurance et plusieurs autres domaines d'activité socio-économique tels l'abonnement à l'eau et à l'électricité. L'attestation de régularité fiscale est exigée pour l'accomplissement de certaines formalités de la vie civile et économique. Cette mesure, qui est inscrite dans l'annexe fiscale 2024, a fait réagir récemment l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, qui a adressé un courrier à la Direction générale des impôts pour lui exprimer les préoccupations des assureurs. Conseiller juridique et spécialiste en fiscalité des entreprises, Maître Kwaku Innocent explique les tenants et aboutissants de cette mesure prise dans la loi de finances 2024.
Il y a déjà l'ASACI qui a écrit au gouvernement pour dire que la mise en application de cette mesure-là serait un peu compliquée. En réalité, l'État veut inciter chaque Ivoirien à avoir la culture fiscale. Et pour inciter chaque Ivoirien à avoir la culture fiscale, il faudrait qu'avant d'accomplir une opération quelconque, que cette personne approuve que elle est à jour de ses impôts en ayant un document qu'on appelle l'attestation de régularité fiscale. Donc, pour signer un contrat d'assurance, l'assureur doit exiger de l'assurer qu'il ait une attestation de régularité fiscale. Or, quand on regarde le secteur des assurances, on sait que la CIMA exige que tout ce qui est opération de transport et les véhicules et autres, qu'on puisse assurer pour se prémunir des dangers qui pourraient arriver, notamment les accidents. Mais qui en Côte d'Ivoire peut avoir une ARF? Donc ça veut dire que du coup, il y a un blocage. Et si les gens n'arrivent pas à souffrir à une police d'assurance, lorsqu'il va avoir un risque, comment on assure ces risques-là? Donc je pense que l'ASACI a apporté un peu la réflexion, a écrit au DG des impôts. Donc on attend la réponse.
Pourquoi, selon vous, il y a un renforcement des mesures pour accroître la mobilisation des recettes de l'État?
À mon avis, c'est lié à un contexte international. On a vu qu'aujourd'hui, on a des difficultés véritablement à pouvoir peut-être capter l'aide extérieure. On veut, comme les grands pays, s'autofinancer à l'aide d'une ressource fiscale. Donc c'est ainsi que l'État a mis tout en œuvre qu'on puisse capter un grand nombre de ressources pour faire face à nos dépenses au niveau de la Côte d'Ivoire.
Maître Kwaku Innocent, conseiller juridique et spécialiste en fiscalité des entreprises, était en ligne avec Jean-Claude Comé. Filière Anacard, le prix du kilogramme pour la campagne de commercialisation de l'Anacard vient d'être fixé à 215 francs CFA contre 315 francs CFA lors de la campagne précédente. Selon Doyana Fofana, président de la coopérative de producteurs d'Anacard de Kolia, l'annonce du prix ne rassure pas les producteurs, surtout que ce prix n'est pas respecté par les acheteurs sur le terrain.
Les voisins qui ont reçu par le pouvoir ne sont pas du tout contents du prix. Il y a un changement de prix, il y a une réduction. Non, mais ça ne nous arrange pas. Donc, ce que les gens disent pour se calmer un peu, ils disent que si les gars pouvaient respecter les règles, le prix qu'ils ont donné, ils font l'achat, finit sur sa propre, il n'y aura pas de problème. Même l'année passée, c'était pareil. Ils ont parlé de 300, comme après, on était à 150.
315 francs.
Voilà, après, on était à 200, 150. Donc, même s'ils disent 275, et l'achat est plus terminé à la 275, comme s'il n'y a rien, ça va. Donc, les gars ne respectent pas les règles, c'est ça qui nous fatigue. S'ils respectent là, il n'y a pas de problème. Mais le prix actuellement, on est en dessous du prix et non plus ni plus rien.
Qu'est-ce que l'État doit faire pour que la commercialisation de l'anacarde se passe très bien, pour que le prix soit respecté en Côte d'Ivoire?
Pour que ces règles soient respectées, l'État même doit échanger avec les grands commerçants, les bailleurs de fonds, ceux qui ont l'argent pour venir placer sur le terrain. Il doit échanger avec eux. L'État doit mettre un contrôle sur le terrain pour ne pas que le prix se bafouille un peu. Des fois, on nous dit, ah, il y a le contrôleur, celui qui, le prix qui est fait, si tu ne fais pas ça, ils vont tu seras sanctionné. Bon, tous les années, on voit après, ça baisse, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de sanctions. S'ils ont pu respecter les règles, payer jusqu'à au terminé avec les 250, moi, ils voient qu'il n'y a pas de problème. Bon, 275 aujourd'hui, mais demain, tu vas voir, on va parler 150. Des fois, il n'y a pas preneur. C'est ça qui est le gros problème.
À l'instant, Doyana Fofana, président de la coopérative de producteurs d'anacarde de Kolia, interrogé par Constant Maïlé. Hors de la Côte d'Ivoire, les restrictions d'accès à Internet en Guinée imposées il y a 3 mois ont été levées dans la nuit du jeudi à vendredi, 4 jours après la dissolution du gouvernement. Les restrictions d'accès à Internet avaient été imposées en raison d'un problème de sécurité, selon les autorités guinéennes. Elles ont été levées dans un climat de tension sociale grandissante et après l'annonce lundi de la dissolution du gouvernement par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, qui n'en a pas donné les raisons. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour la dernière rubrique de ce journal, l'invité de la rédaction. Sui Kaofi, journaliste à l'agence France Presse et formateur en matière de fact-checking pour le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi, intervient sur la campagne de sensibilisation des jeunes sur l'usage des réseaux sociaux. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Sui Kaofi, bonjour.
Bonjour.
On apprend que le Reprelsi sensibilise des jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. À quoi répond cette initiative?
Il s'agit pour nous d'informer la jeunesse ivoirienne sur la saine utilisation des réseaux sociaux et de leur donner plus d'informations sur ce qui est possible pour eux de dire ou de ne pas dire sur les réseaux sociaux. Alors quand nous parlons de saine utilisation des réseaux sociaux, il va sans dire que dans ce paquet que nous mettons, la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, les discours de haine et bien entendu les fausses informations. Nous les sensibilisons donc à avoir recours à des plateformes qui sont crédibles pour pouvoir s'informer, mais également éviter certains propos qui sont par exemple de nature injurieuse sur les réseaux sociaux, afin que ces propos qu'ils tiennent aujourd'hui dans leur jeunesse ne puissent pas les rattraper demain. Parce que ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux reste et peut servir demain, par exemple contre eux lorsqu'ils vont vouloir chercher un emploi ou tout simplement lorsqu'ils vont par exemple diffamer quelqu'un, tomber sous le coup de la loi.
Cette initiative, c'est plus pour les orienter ou parce que des remarques ont été faites, des débordements sont constatés dans l'utilisation donc de ces réseaux sociaux par ces jeunes?
Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les jeunes ignorent la loi et ils ne savent pas justement comment se comporter sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a remarqué que beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens avaient cette coutume-là de partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux, soit des photos nues, soit des vidéos osées. Ce que nous avons également remarqué, c'est que les jeunes s'adonnent à des insultes. Nous nous sommes dit qu'il était important, vu ce constat, d'aller vers ces jeunes-là pour pouvoir réellement les sensibiliser à la bonne utilisation des médias sociaux, faire en sorte qu'ils ne puissent pas se retrouver sur le coup de la loi. Parce qu'une fois au bureau du procureur, l'expression « je suis jeune » ou « je ne savais pas » n'a plus cours, étant donné qu'il y a des peines privatives de liberté et des amendes pécuniaires qui sont liées à tous les délits en ligne.
Et la sensibilisation se fait où? Dans les écoles, dans les gares routières? C'est où précisément? Et qui sont ceux qui sont concernés?
Alors, la caravane a donc débuté du vendredi 9 février et nous l'avons achevé le 15 février. Je dois dire que nous sommes allés là où nous pouvons trouver les jeunes. Nous avons donc commencé cette caravane à la période de la CAN. Donc nous avons sillonné plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et nous avons marqué et une escale au niveau des villages Cannes, où les jeunes étaient mobilisés, soit en tant que bénévoles, soit en tant que saints spectateurs. Donc nous étions à Korogo, à Boaké, à Yamsoukro, également dans d'autres localités comme à Bangourou, Daloa, Man, et le même message a été porté aux jeunes, aussi bien par exemple sur les gares routières, dans les écoles, dans les villages Cannes, mais également dans leurs lieux de rassemblement que sont les grains, en utilisant même la radio pour pouvoir sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de jeunes qui n'ont même pas encore la majorité, c'est-à-dire les 18 ans autorisés pour être sur les réseaux sociaux, dissimulent leur âge et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il était important pour nous également de porter la sensibilisation auprès de ces élèves de la 6e jusqu'à la 3e.
Et le retour, comment vous l'appréciez? Vous sentez ces jeunes réceptifs à votre message?
Le message est positif. Quand vous finissez de parler à des jeunes et qu'ils viennent vers vous et vous disent « je ne savais pas », cela signifie qu'ils étaient dans une certaine ignorance et que maintenant, grâce au travail du repenti à cette caravane, ces jeunes-là sont mieux informés. Donc c'est une satisfaction pour nous de savoir que ces jeunes qui ont écouté les 3 équipes de sensibilisation du Réprelci sont arrivés à retenir un message positif. C'est le message de la bonne utilisation des réseaux sociaux et de l'absence de discours de haine dans leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Pour nous, nous disons que c'est un premier pas. Il va sans dire que ce n'est pas en une seule caravane que nous allons arriver à les changer, mais nous estimons que nous avons posé une première pierre et nous allons continuer à travailler avec ces jeunes-là par tous les canaux, afin que demain, nous ne puissions pas avoir les mêmes travers que nous avons aujourd'hui, avec cette mode de la nudité sur les réseaux sociaux, avec cette mode des injures sur les réseaux sociaux, avec cette mode de l'appel à la haine tribale. Pour nous, c'est un premier pas qui est important au niveau du Réprelci et les jeunes ont accueilli favorablement ce message-là et nous avons été aidés dans cette démarche-là, surtout au niveau des écoles, par les directeurs des études, par les enseignants eux-mêmes.
Parlons donc de vos partenaires sur le terrain. Cela laisse croire que le suivi sera assuré.
Oui, c'est un message que les enseignants eux-mêmes partagent avec les élèves et les étudiants. Alors, vous savez que généralement, lorsque l'enseignant parle, on le voit bien plus en moralisateur que quelqu'un qui porte un réel message. Et cette fois-ci, ces enseignants nous ont remerciés pour le travail que nous avons fait. Ils nous disent, c'est ce qu'on leur répète ici tous les jours, mais ça a du mal à passer. Peut-être qu'avec votre présence et avec les exemples précis que vous avez partagés, ils se sentent aujourd'hui dans une situation où ils comprennent mieux la loi et où ils comprennent effectivement ce qui leur est autorisé de dire ou de faire sur les réseaux sociaux ou ce qui n'est pas autorisé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté de suivi et nous avons remarqué que beaucoup d'entre eux ont gardé les contacts du Réprelci, nous invitant à revenir pour maintenir l'élan de la sensibilisation. Et au niveau du Réprelci, nous comptons continuer, bien entendu, cet effort-là qui est fait. Et cette caravane qui s'inscrit dans le cadre du projet Impact, pour nous, est important et nous espérons que les bailleurs continueront de nous accompagner pour que nous puissions maintenir l'élan de la sensibilisation au-delà de ces premières villes que nous avons sillonnées.
Monsieur Kaofi, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction à l'instant, c'était Sui Kaofi, journaliste à l'agence France Presse et formateur en matière de fact-checking pour le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Réprelci. Passons au rappel des titres de ce journal. Grâce présidentielle accordée à plusieurs prisonniers issus des crises ivoiriennes, parmi eux, Souleymane Camarate dit Soul to Soul, Afoussia Tabamba Lamine et l'ex-général et commandant de la garde républicaine sur l'air Laurent Gbagbo, Dobo Blé Bruno. Opération de déguerpissement à Yopougon-Jesco. Le conseil municipal qui déplore la situation s'est réuni en urgence hier pour voler au secours de ces populations des actions de relocalisation temporaire pour les sinistrés et de réaffectation des élèves impactés sont en vue. Et puis hors de nos frontières, l'accès à Internet a été rétabli en Guinée dans la nuit d'hier après 3 mois d'interruption. Une décision qui intervient 4 jours après la dissolution du gouvernement. Fin de ce journal, je vous retrouve à 15h pour le Flash. D'ici là, bon appétit à l'écoute de la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Lors du Conseil des ministres, au lendemain de la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations des éléphants, le club de football de Côte d'Ivoire, le chef de l'État avait annoncé qu'il allait prendre des décisions dans le sens de la décryptation sociopolitique. Eh bien,